Bonsoir mes frères et sœurs, nous voilà à la 51e prédication sur la lettre aux Hébreux, et on va commencer notre lecture au chapitre 11, puisque c'est là que nous en sommes restés, versets 11 à 16, je commence. Hébreux 11, voilà. C'est par la foi que Sarah, la femme d'Abraham, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La foi de Sarah est remarquable. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces paroles que je vais donner et de permettre que mes frères et sœurs puissent manifester aussi la foi dans ta parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Elle est remarquable parce que en Genèse 18, 10 à 5, elle a montré d'abord de l'incrédulité. Je vous lis Genèse 18, 10 à 15, où il est dit l'un d'entre eux, donc des anges qui étaient avec Abraham, l'ange de l'Éternel, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mais mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire, tu as ri. Voilà. C'est écrit ensuite, ils partirent, ils se levèrent pour partir, et regardèrent du côté de Sodome et Gomorre, etc. Et vous connaissez l'histoire. Elle doute, elle rit, elle ment, par peur. Et des choses, au début, c'était mal parti. Hein. Mais qui va lui jeter la pierre? D'ailleurs, cela n'est pas écrit pour qu'on juge Sarah, mais pour qu'on puisse s'identifier à elle quand on se trouve devant une impossibilité ou devant une parole de Dieu qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas croire. Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi a-t-elle ri comme si Dieu ne savait pas ?» Vous voyez la délicatesse du Seigneur. Il ne lui saute pas à la gorge en lui disant « en disant à cette vieille dame, « Oui, comment, alors, moi je suis l'Éternel, je parle, et puis tu m'écoutes pas, puis tu ne me crois pas, c'est quoi ça, que c'est cette histoire ?» Non, non, non. Il est rempli de délicatesse. Elle a ri, oui, en elle-même, elle n'a pas éclaté de rire comme une folle dans sa tente, mais elle a ri en elle-même, et je suis persuadé que le Seigneur souriait en demandant à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Et il pouvait, sans faire de reproches, continuer en disant, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Bah, en fait, avec Dieu, tout est étonnant. Et ce soir, je vais vous étonner encore au sujet de vous et de votre famille. Parce que là, il est question de Sarah et de sa famille, d'Abraham et de sa famille. Je vais vous étonner. Tout est étonnant quand ça vient de Dieu. Quand Dieu parle, quand la parole de Dieu s'exprime, c'est étonnant. Dieu fait rarement les choses comme on s'y attend. Et quand on n'attendra plus rien, parce qu'on est trop malade, ou parce qu'on est trop vieux, ou parce qu'on est trop loin dans le péché, Dieu ne nous gronde pas. Quand on ment en plus, disant quelque chose dans le genre, mais non, j'ai pas ri, Dieu dit au contraire, tu as ri. Et puis il se lève et il passe à autre chose. Là, en l'occurrence, il m'a parlé au sujet de Sodome et Gomorre. Sa promesse est en marche. Elle viendra. Dieu a son calendrier, ne doutez pas. Le calendrier de Dieu ne tient pas compte du fait que nous soyons vivants ici-bas ou que nous soyons vivants de l'autre côté du voile. C'est pourquoi Paul dit « Tous ceux dont il a parlé sont morts sans avoir obtenu les choses promises. » Parce que pour Dieu, qu'il soit vivant sur cette terre ou vivant de l'autre côté, quand c'est promis, c'est promis. Parce que c'est vrai que ni Abraham ni Sarah n'ont vu leur postérité devenir aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ou ni aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer. Et Jésus, enseignant les gens de la secte des Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, leur dit une chose. C'est des gens qui avaient un manque de foi au sujet de la résurrection, ils ne croyaient pas. Il leur dit que Dieu, en effet, est le Dieu des vivants. Mais il leur dit de façon à les convaincre au sujet de la vie après la mort. Lisons Luc 20, 37, 38. Voilà ce qui est écrit. Il dit « Les morts ressuscitent ». C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Vous voyez, pour Dieu, tous sont vivants, même les morts, même ces gens que vous aimez, qui sont partis, qui sont morts, peut-être mort incrédule, mort dans le péché, mort sans avoir connu Jésus, mort sans avoir été baptisé, mort. Ben Dieu les voit vivants, pour lui ils sont vivants, parce que Dieu est le Dieu des vivants. En effet, quand Moïse appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces trois-là, ça fait déjà belle lurette qu'ils sont morts. Donc Moïse dit Dieu d'Abraham, Dieu du mort, Dieu d'Isaac, Dieu d'un mort, Dieu de... Non, pas d'un mort, Dieu d'un vivant. Parce que pour Dieu, que tu sois vivant sur cette terre ou mort, tu es vivant. Dieu est le Dieu des vivants. C'est pourquoi, dans la communauté, on se fait baptiser à la place de nos ancêtres qui sont décédés et qui n'ont pas marché avec Dieu, qui ont quitté ce monde, et qui n'étaient pas croyants, et ils sont morts, mais en fait, aux yeux de Dieu, ils sont vivants. Et ils attendent quelque chose de nous pour accomplir cet acte du baptême, puisque Jésus dit dans Marc chapitre 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et quand quelqu'un meurt, eh bien, il est... Écoutez ce que je vais vous dire. Les premiers chrétiens pratiquaient ça jusqu'au 4e siècle. On trouve dans 1 Corinthiens 15, 29, Paul qui argumente au sujet de la résurrection et il dit, en fin de compte, même ceux qui se font baptiser pour les morts, alors s'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça sert qu'ils se fassent baptiser pour eux? Donc il n'est pas en train de dire que le baptême pour les morts est faux, il est en train de dire, s'il n'y a pas de résurrection, comme le croyaient les Sadducéens, eh bien, ça ne sert à rien de se faire baptiser pour eux. Mais s'il y a une résurrection, ça sert à quelque chose de se faire baptiser pour eux. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Parce que l'évangile est aussi annoncé à ceux que nous appelons morts. Parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont vivants. pour Dieu, en réalité, ils sont vivants. On va lire 1 Pierre 3, 18. Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, Jésus donc, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Qu'est-ce que ça signifie? Ces choses sont oubliées dans les églises. Elles ne sont plus pratiquées. Et c'est dommage, parce que c'est la parole de Dieu, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles de Dieu. Et si vous ne croyez pas ça, vous avez des problèmes. Il faut que vous arrachiez la page. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même et aussi pour ce qu'il aura fait pour sa famille. Nous avons foi, nous autres, ici à la communauté, dans ce que la parole de Dieu déclare. Rappelez-vous, quand Marie a voulu toucher Jésus le troisième jour après sa mort, Jésus ressuscite et il apparaît à Marie et Jésus lui dit « Ne me touche pas ». Et pourquoi il lui dit « Ne me touche pas » Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pourquoi Jésus dit ça? On le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, il le dit clairement, chapitre 20, verset 17, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, et va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc Jésus, pendant ces 3 jours, son corps était dans le tombeau, et son esprit n'est pas allé au Père, il le dit, je ne suis pas encore monté au Père. Il était où? Où est-ce qu'il était Jésus? Jésus n'était pas encore monté vers son Père, pourquoi? Où est-ce qu'il a passé son temps en esprit pendant ces 3 jours et ces 3 nuits? Ben, on vient de le lire, 1 Pierre 3,18. Il est mort selon la chair, mais quant à l'esprit, je vais le relire si vous voulez. Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, il était crucifié, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux gens qui avaient été rebelles du temps de Noé. Qui avaient été incrédules du temps de Noé, donc qui étaient du mauvais côté du séjour des morts. Ils n'étaient pas dans le sein d'Abraham, ils n'étaient pas au paradis, ils étaient du mauvais côté du séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus leur a prêché? C'est ça la grande question. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors on s'arrête là, puis on dit, bon ben voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, vous savez pourquoi la plupart des gens ne savent pas? C'est parce qu'ils s'arrêtent à la fin du chapitre 3, puis ils disent, ben, je lirai le chapitre 4 un autre jour. Ben, c'est dommage, parce que quand l'apôtre Pierre a écrit sa lettre, il n'y avait pas des versets et des chapitres, c'était une lettre, il fallait la lire en entier. Et il est dit ce que Jésus leur a prêché. Juste un peu après, dans 1 Pierre 4,6, il est dit, car l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ces gens-là sont morts, donc, dans le déluge. Ils ont été jugés quant à la chair, et ils ont été mis du mauvais côté du séjour des morts. Parce que la Bible dit, après, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ces hommes ont été, ces femmes ont été jugées, et ils ont été mis du mauvais côté du séjour des morts. Vous savez que dans le séjour des morts, il y a 2 côtés. Hein, vous vous souvenez de la parabole du mauvais riche et de Lazare. Il y a 2 côtés. Ils ont été mis du mauvais côté. Donc ils ont été jugés quant à la chair, et ils ont été mis du mauvais côté. Et Jésus est allé leur prêcher l'évangile. L'évangile a aussi été annoncé aux morts. Si c'était écrit « l'évangile a été annoncé aux morts », on pourrait se dire « oui, nous étions morts dans nos péchés, donc Jésus nous a prêché l'évangile à nous qui étions morts dans nos péchés, afin que nous puissions vivre selon Dieu ». Mais c'est pas écrit ça. C'est écrit « l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que après avoir été jugé quant à la chair, il puisse vivre selon Dieu quant à l'esprit. Cela n'est pas saisi par la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Quand on leur parle de ça, soit ils se fâchent, ils disent que c'est une fausse doctrine, ou ils rigolent, ils disent « Tiens, Michel, il déraille. Tiens, Michel est devenu un mormon. » Et ça les fait marrer, ça les fait rire. Mais toi qui m'écoutes là, toi là, est-ce que tu es en train de rire en pensant que je suis devenu dingo de croire une telle doctrine? Dieu te demande « Pourquoi ris-tu? Pourquoi te moques-tu? Pourquoi dis-tu que c'est faux ?» Alors, ne sois pas comme Sarah qui a menti, qui dit « Non, non, je parie. » Dieu voit tout. Dieu te voit. Alors, prouve que tu as la foi dans ce que Dieu dit dans la Bible. Sarah, elle a prouvé finalement qu'elle a cru. Toi, il faut que tu prouves aussi que tu crois. Sarah, pour prouver qu'elle croyait ce que Dieu dit, s'est approchée de son mari, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont eu l'enfant. Prouve que tu as la foi dans ce que Dieu dit dans la Bible, de ce que je t'ai expliqué. Comment ? Eh bien, tu prends un papier et tu écris le nom des gens que tu connais, qui sont décédés, de tes ancêtres, et puis tu m'envoies cette liste par le net. Tu m'écris, tu m'envoies ça. Et ici, dans la communauté, nous nous ferons baptiser à la place de tes ancêtres qui sont décédés. Et tu peux aller très loin. Il n'y a pas que ton papa, ta maman, ton grand-papa, ta grand-maman. Il y a aussi ceux du côté de ton mari ou de ton épouse. Et puis, il y a le papa de ton grand-papa, et ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère, etc. Tu peux faire des recherches et tu peux trouver énormément de personnes et faire une grande liste afin de pouvoir être baptisé à leur place. Fais-le. Cela sera la preuve que tu as la foi, que tu ne fais pas que d'écouter depuis l'intérieur de ta tente et puis de rire en disant « Ouais, oh, de toute façon, maintenant, c'est plus la mode. De toute façon, maintenant, personne ne le fait dans l'Église. De toute façon, c'est une fausse doctrine. je ne le ferai pas. » Prouve que tu as la foi en m'envoyant le nom de tes ancêtres, de tes amis qui sont décédés, que tu aimes, et qui pour Dieu sont vivants. Quand ils arrivent dans le royaume des morts, dans le mauvais côté du séjour des morts, parce qu'ils sont morts sans Dieu, eh bien, ces gens-là, ils entendent l'évangile prêché. Jésus a prêché une certaine catégorie de personnes, ceux qui avaient été rebelles et incrédules du temps de Noé, mais chaque fois qu'un chrétien meurt, il va passer au minimum 3 jours pour prêcher l'évangile à une certaine catégorie de personnes qui ont vécu sur cette terre. Et tes ancêtres ont entendu l'évangile. Certains ne l'ont pas voulu, même dans le séjour des morts, mais certains l'ont accepté. Il ne leur manque que d'être baptisés, puisque Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ils ne peuvent pas être baptisés non plus de corps, mais toi tu as un corps et tu peux le faire. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15-29. Ils se faisaient baptiser pour les morts. C'est l'Église catholique qui a interdit cette pratique au IVe siècle lors d'un concile, et puis c'est passé aux oubliettes. Mais maintenant, Dieu est en train de restaurer toutes choses. Maintenant, toi, tu es là, chez toi, dans ta voiture, ou je ne sais pas où. Est-ce que ce que je te dis te fait rire? Ou est-ce que tu vas prendre ça au sérieux et faire ce que je te dis? Je verrai bien. Que Dieu te bénisse. En tout cas, Dieu te voit. Seigneur, je te prie que tu touches le cœur de mes frères et sœurs qui ont écouté cela et qu'ils deviennent conséquents et qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour ceux qui sont décédés. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.